Les séminaires du Collège de France.
Donc on va avoir la seconde série de présentations des challenges et j'en profite pour vous présenter Enzo Dalbi qui fait partie de l'ILB, qui est vraiment le maître d'œuvre, qui a mis en place tous ces challenges, a sélectionné les challenges, a organisé l'équipe des bêta-testeurs, etc. Donc je voudrais beaucoup le remercier pour ces challenges. Et je te passe la parole pour présenter les challenges.
Bonjour à tous. Du coup, je n'ai pas pu venir la semaine dernière, donc je vais rapidement introduire les challenges data cette semaine. Donc déjà, merci à tous d'être venus pour cette deuxième session de présentation. Ces dernières années, le challenge data a beaucoup grandi. En 2024, une vingtaine de cours tels que celui de Stéphane Malas sur le MVA ont été créés avec plus de 3000 personnes qui ont pris part à au moins un challenge. Plus de 90 challenges, en plus de ceux auxquels vous allez pouvoir participer, sont sur la plateforme actuellement, avec plus de 23 000 participants et 75 000 soumissions. On peut espérer dépasser les 100 000 cette année, ce sera un bon objectif. Donc voilà, cette année, vous avez la chance d'avoir le choix entre 11 challenges. On en a eu 6 qui ont été présentés la semaine dernière. Il y a les 5 suivants qui vont l'être aujourd'hui. Et du coup, sans plus attendre, on va commencer par le challenge de Crédit Agricole Assurance présenté par Samuel. Et du coup, il me manquait une personne sur ma slide.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Samuel Zakouri. Donc je suis data scientist au Crédit Agricole Assurance. Et donc on va vous présenter le challenge. Donc je vais vous présenter rapidement le groupe Crédit Agricole et nos enjeux, etc. Et puis ensuite je laisserai Claire qui est actuaire sur la partie assurance dommage chez Pacifica, l'entité de non-vie du Crédit Agricole Assurance, qui présentera en détail le challenge. Donc déjà, je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Qui sommes-nous ? Donc, Crédit Agricole Assurance, donc du groupe Crédit Agricole, je pense que vous connaissez tous. Donc, on est le premier assureur en France et le premier banque assureur en Europe. Donc, on couvre toutes les catégories d'assurance. Donc, l'assurance dommage, donc justement avec Pacifica. Donc, l'assurance dommage, c'est l'assurance habitation, l'assurance auto, mais pas que. La partie épargne de retraite, on est premier aussi en France. Premier assureur vie aussi avec notre filiale Prédica. Et également la partie prévoyance emprunteur et collective. On est aussi présent à l'international. On est présent dans 9 pays, principalement en Europe, mais également au Japon. Donc on a des entités qui peuvent être... On a des pays où on a des entités qui couvrent l'assurance vie comme l'assurance non-vie, et des entités où on n'a que de l'assurance vie, par exemple au Japon, ou que de l'assurance non-vie comme au Portugal. Et à l'international, ça représente 730 collaborateurs. Juste quelques chiffres des résultats que Crédit Agricole fait. Donc, c'est 37,2 milliards de chiffres d'affaires, donc répartis sur les trois catégories dont je vous ai parlé. La partie qui va nous intéresser ici, c'est l'assurance dommage. Donc, on fait 5,7 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment important. Vous allez voir les enjeux, notamment autour de la tarification. Et puis, vous avez aussi, on montre les indicateurs de solidité du groupe. Donc, pour ceux qui connaissent les ratios de solvabilité, ce genre de choses. Et donc, sur le périmètre France, on est 5800 collaborateurs. Et je voulais faire juste un petit focus avant de laisser la parole à Claire sur la partie IA. Donc on a depuis quelques années au Crédit Agricole Assurance eu la volonté de créer toute une direction vraiment autour de l'IA, de la data science, donc qui s'appelle l'IA Factory, avec comme objectif donc accélérer la digitalisation pour nommer au niveau des clients comme des collaborateurs. Et puis, c'est on a décliné en 4 phases, donc l'industrialisation de nos projets, l'automatisation, l'optimisation avec la lecture automatique de documents, plein de projets autour de ça. Avoir une expertise IA, puisqu'on sait que c'est un domaine qui est en constante évolution, surtout depuis l'émergence des IA génératives. Et on a également une communauté donc de laquelle on fait partie, qui vise à acculturer tous les collaborateurs à la data science, à l'IA de manière générale, notamment via la création de challenges comme on l'a fait ici. Donc là, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est dans le détail de toutes les lignes métiers et tous les aspects sur lesquels on essaye d'intégrer de l'IA, de la digitalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit au niveau des collaborateurs comme pour nos clients. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Claire qui va vous présenter le challenge.
Bonjour à tous. Comme a dit Samuel, je suis actuaire tarification dans la filière dommages du Crédit Agricole à Pacifica. Donc moi, je vais plutôt vous présenter le challenge. Donc le challenge porte sur un produit d'assurance, la multirisque agricole. Donc à titre de comparaison pour les particuliers comme vous et moi, c'est l'assurance habitation pour assurer sa maison ou son appartement. Pour les professionnels, ça sera plutôt la multirisque professionnelle pour assurer son entreprise, donc sa boulangerie, son cabinet médical, etc. Et par contre, pour les agriculteurs, ça va être la multirisque agricole pour assurer son exploitation agricole. Donc la multirisque agricole d'un agriculteur, elle va notamment permettre de couvrir ses bâtiments, ses biens et ses marchandises en cas d'incendie, de tempête, de vol ou de dégâts des eaux. Mais elle va également permettre de le couvrir pour son exercice de son activité ou aussi le soutenir financièrement en cas de coup dur. Donc il faut savoir que la multirisque agricole, c'est quasiment 1 milliard d'euros de cotisation en 2023, tout assureur confondu. Donc c'est plus d'un tiers du marché de l'assurance agricole en France. Et parmi toutes les garanties couvertes sur ce contrat, l'incendie représente le risque majeur pour les exploitations agricoles, du fait notamment des produits qui sont stockés à l'intérieur des bâtiments, comme les engrais, les produits phytosanitaires ou le fourrage. Il y a aussi le fait que, par exemple, les bâtiments sont souvent isolés, donc les pompiers tardent à arriver, ce qui accroît le risque. Et en 2023, le risque incendie, il a ainsi représenté 35% de la charge globale sinistre, tout assureur confondu. Donc du fait de ce poids important qu'on constate, on a voulu être challengé sur notre modélisation de la charge incendie. On rappelle ici quelques notions importantes d'assurance pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler dans ce milieu. Donc par année assurance, on entend la portion de l'année durant laquelle un agriculteur va être assuré chez nous, donc c'est équivalent à l'exposition. Donc par exemple, si un agriculteur vient souscrire à Pacifica le 1er septembre 2020, son année assurance sur l'année 2020 va être de 122 sur 365, soit un tiers de l'année. Par la fréquence, on entend le nombre de sinistres sur le temps de présence dans l'année. Donc si on reprend notre exemple, si l'agriculteur a eu 2 sinistres au cours de 2020, sa fréquence annuelle va être de 2 divisé par un tiers, soit 6 sinistres par an. Par le coût moyen, on entend le rapport de la somme des charges sur le nombre de sinistres. Donc pareil, si on reprend notre exemple, si le premier sinistre a coûté 1 000 euros et le deuxième 3 000 euros, le coût moyen du sinistre va être de 1 000 plus 3 000 divisé par 2, donc 2 000 euros. Et enfin, les notions importantes, donc c'est la prime pure qui va correspondre au montant du sinistre moyen auquel l'assureur devra faire face en cas d'incendie. Donc dans notre exemple, la prime pure, ça va être 1 000 plus 3 000 divisé par un tiers, soit 11 967 euros. Ça veut dire que l'assureur devrait demander à minima 11 967 euros pour tous ses assurés pour couvrir le risque incendie. Et en ce qui concerne la charge, donc là c'est vraiment le montant global payé par l'assureur. Donc ici c'est vraiment le montant des sinistres, donc 1 000 plus 3 000, soit 4 000 euros. Donc dans la base de données qu'on va vous fournir, il faudra vraiment faire attention à la notion d'exposition d'un assurance. Il faut vraiment avoir en tête qu'une ligne de la base, ça correspond pas à un poids de 1, mais qu'il faudra vraiment regarder l'exposition. On a des assurés qui vont rester un tiers de l'année, d'autres qui vont rester toute l'année entière. Donc le but du challenge, ça va être de prédire la charge incendie, idéalement en passant par un modèle de fréquence et de coût moyen. Pour cela, on a mis à disposition 2 bases de données. Une première base qui est la base de Trend, qui correspond à 80% de la base construite. Donc cette base est fournie en intégralité avec toutes les variables potentiellement explicatives et les deux variables cibles à modéliser, la fréquence et le coût moyen incendie. Cette base, elle va servir à trouver le meilleur modèle de machine learning possible du coup sur ce jeu de données. Et l'autre base qu'on a fournie, donc c'est la base de test, donc qui correspond à 20% de la base construite. Et cette fois-ci, par contre, vous aurez uniquement accès aux variables explicatives et vous n'aurez plus accès aux variables cibles à modéliser. Donc ça va permettre d'évaluer et de classer les différents modèles de machine learning. Et comme je vous le disais, une ligne de la base de données, ça va pas correspondre à un unique assuré, mais ça va vraiment regrouper tous les assurés qui possèdent les mêmes caractéristiques contrat. Donc il faut faire attention à l'exposition. Donc pour réaliser ce hackathon, on a donc construit une base MA 10 ans. Bon, quand je dis MA, c'est multirisque agricole, c'est un peu un abus de langage qu'on fait chez nous. Donc si je dis MA pour la suite de la presse, vous m'en veuillez pas. Donc dans le but de pouvoir réaliser la prime pure du risque incendie. Donc dans cette base, on a deux grands types de variables. Donc on a des données internes, on a 140 variables internes. Donc ça va être des données classiques, propres au contrat de la multirisque agricole. Par exemple, on a fourni des données de capitaux et de surface, l'activité de l'agriculteur aussi. Donc l'idée derrière, c'est est-ce qu'un retraité, par exemple, va être moins risqué qu'un agriculteur en activité. On a également fourni la localisation. On pourrait par exemple s'attendre à ce qu'un contrat dans le sud de la France soit plus risqué qu'un contrat situé en Bretagne. On a également des données liées à la taille de risque et le nombre de bâtiments, car on sait que plus l'exploitation va être importante et plus le coût moyen sera élevé en cas d'incendie. On a également des données liées au bâtiment. Donc, par exemple, si le bâtiment est assuré avec une indemnisation en valeur à neuf, le coût moyen pour l'assureur sera plus élevé. On a également d'autres informations importantes comme la sinistralité passée. Dans le sens qu'on sait que le sinistre appelle le sinistre. Donc généralement, un contrat qui a eu un sinistre une année, il a de fortes chances d'avoir des sinistres dans les années à venir. Et on a d'autres informations comme les panneaux photovoltaïques. Donc on pourrait penser que les contrats avec des panneaux photovoltaïques ont plus de chances d'avoir un incendie. La question de savoir s'il y a la présence d'un extincteur sur l'exploitation ou pas. Est-ce qu'il y a également eu le contrôle des installations électriques par un organisme agréé qui a été effectué ou pas? L'autre grand type de données qu'on a, c'est les données externes. Donc on a 228 variables externes, ce qui peut paraître beaucoup. Mais il faut savoir que à la souscription d'un contrat multirisque agricole, la majorité des agriculteurs sont obligés de passer par une visite de risque, ce qui nous permet d'avoir accès au géocodage de l'ensemble des bâtiments de l'exploitation et donc de pouvoir rapatrier des données externes à l'exploitation de manière très fiable. Donc c'est ce qu'on a fait. Et aussi la nouveauté par rapport à cette année, c'est que depuis 2023, on a un accès libre aux données de Météo France. Donc on a notamment accès à des données de température comme la moyenne mensuelle, le maximum mensuel, etc. On a également rapatrié d'autres données comme des données de vent et de pluviométrie. Et toujours dans l'idée que, par exemple, on pourrait s'attendre que dans les régions les plus chaudes de France, le risque incendie soit plus important. On a également calculé différentes distances intéressantes par rapport à des points d'intérêt. Par exemple, la distance par rapport à la caserne de pompiers la plus proche. Donc l'idée, c'est que plus on va être proche d'une caserne de pompiers, plus les pompiers peuvent intervenir rapidement, et donc plus le coût moyen du sinistre serait potentiellement faible. On a aussi des données de distance de type distance par rapport à des poteaux électriques, distance par rapport à différents types de données d'occupation du sol, comme les cours d'eau. Et le dernier type de données externes qu'on a rapatriées, ce sont les données INSEE. Par exemple, on a récupéré des informations dans le code INSEE comme le nombre de ménages pauvres dans le code INSEE ou le nombre de logements construits entre telle ou telle année. Donc toujours l'idée étant que on pourrait s'imaginer que plus la proportion de logements anciens dans le code INSEE est importante et plus le risque incendie pourrait être élevé. Donc voilà, on a une base avec toutes ces données-là pour essayer de modéliser le risque incendie. On a bien sûr dû anonymiser la plupart de nos données en interne pour la confidentialité. Alors, en assurance, enfin en particulier aussi à Pacifica, on a souvent l'habitude d'utiliser un GLM par simplicité et pour son interprétabilité. Donc, on a simplement réalisé en interne un GLM sur la fréquence incendie et sur le coût moyen incendie, ce qui nous a permis d'obtenir une erreur quadratique moyenne, un score de référence sur cette base de test. Et donc, le but du hackathon, c'est de faire meilleur que nous, donc de trouver un modèle de machine learning qui permettrait d'avoir un score meilleur que ce qu'on a obtenu. Donc, dans l'idéal, en tout cas, en ce qui concerne notre challenge, on aimerait potentiellement plutôt avoir des premiers résultats d'ici fin avril pour des questions de calendrier. Et après, du coup, on recontacterait potentiellement les premiers participants sur le modèle qu'ils ont utilisé et autres. Je ne sais pas si vous avez des questions, si Samuel, tu as des éléments à rajouter.
Non, il y a juste donc le challenge, il est en ligne sur toute l'année, mais comme disait Claire, d'un point de vue calendrier, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au 30 avril, c'est pas encore arrêté, mais à peu près au 30 avril, on regardera les meilleurs scores et on sélectionnera les 3-4 meilleurs et puis on les invitera à venir au Crédit Agricole Assurance pour présenter leur modèle et puis il y aura aussi sûrement des récompenses pour les meilleurs scores. Donc, tout est clair, je pense. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette présentation de ce premier challenge de la matinée. On va passer ensuite au challenge proposé par Transilien SNCF. C'était le deuxième, du coup. Donc, Rémi Coulot et Judicaël Léger vont vous le présenter.
Bonjour à tous et à toutes. Et nous sommes très heureux de proposer pour la troisième année consécutive un challenge. Cette fois-ci, on a fait la prévision de charge, on a fait la charge à bord des trains, on a proposé la prévision d'affluence dans les gares, et là, on propose quelque chose de plus commun, qui est la prévision de retard. Mais on l'a tourné en prévision en temps réel du temps d'attente, parce qu'en réalité, sur SNCF Transilien, juste pour vous donner quelques éléments... Bon, le temps d'attente, vous voyez bien, quand vous prenez les transports en commun, vous avez un temps d'attente. Et pourquoi on parle de temps d'attente? Parce qu'on est un transporteur de transports en commun, justement. On a des lignes qui... 5 lignes de RER, 4 lignes de tram-train, et le reste, c'est des lignes type A, J, K, L, etc., qui sont opérées sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France. Et en réalité, quand on prend les transports en commun, c'est pas comme quand on prend le TGV, on va plutôt regarder... Si on a une fréquence suffisante, ce qui n'est pas vraiment le cas dans les extrémités des branches de Transilien, mais on va plutôt regarder, aller à la gare et regarder le temps d'attente du prochain train. Voilà, donc on essaye de prédire le temps d'attente. Cette problématique-là, notre problématique, c'est qu'on a des trains à l'horaire et on a des aléas qui vont impacter nos horaires théoriques. Quand on dit train à l'horaire, c'est que globalement, nos trains ils circulent suivant un plan de transport qu'on a défini très longtemps à l'avance, jusqu'à 2 ans à l'avance. Et donc chaque train doit circuler suivant cet horaire-là. Il y a des aléas et donc un temps d'attente qui peut paraître parfois instable où on donne l'impression de ne pas vous donner le bon temps d'attente. Et votre objectif, ça sera de mieux prédire justement ce temps d'attente à court terme en prenant des informations contextuelles des précédents trains et des précédents arrêts du train. Juste pour vous donner un exemple de comment ce temps d'attente varie, juste... Donc l'exercice de passer du retard au temps d'attente n'est pas hyper évident. Et donc le principe, c'est qu'on va se dire qu'à la gare G, on va vous donner le temps d'attente à la gare G plus 2 dans le dataset, et on va comparer ce temps d'attente réel à un temps d'attente théorique. Donc théoriquement, les trains circulent suivant une grille horaire, donc on connaît le temps d'attente théorique, c'est-à-dire le temps de trajet entre la gare G et la gare G plus 2. On regarde ce qui s'est vraiment passé en termes de, à l'aide de nos trains et des balises qu'on a sur les rails, et ça nous donnera un temps d'attente observé. On fait l'écart entre le temps d'attente théorique et le temps d'attente observé, ce qu'on affiche ici pour une mission donnée, un jour donné, et on voit que le temps d'attente, cette différence-là a diminué, ça veut dire qu'on a pris du retard, puis elle a re-augmenté. Donc globalement, le train a rattrapé son retard entre l'arrêt 8 et l'arrêt 14. C'est à peu près clair. Et je donne la parole à Julie Gaël pour vous expliquer un peu plus les données.
Donc, nous, on va vous donner accès à un dataset que je représenterai un peu plus en détail juste après, juste pour vraiment faire du contexte sur les données qu'on vous partage. On les classe en deux types. Le premier, c'est un petit peu donc tout ce qui est variable contextuelle, comme présenté dans l'autre data chain juste avant, l'heure, le sens de trajet, donc c'est-à-dire si vous allez vers Paris ou vers la province, la composition du train, par exemple, si c'est ici il y a deux rames ou une rame. Donc typiquement, si le train il est long ou il est court, tout un tas d'informations comme ça. La gare aussi, même si elle sera anonymisée, et le numéro de train. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des sur un trajet, on va dire, si vous savez le train où est-ce qu'il est, d'où est-ce qu'il part, etc. Ça peut parfois être un peu facile. Donc on a essayé d'anonymiser pour ne pas vous dire exactement quel est le train, où est-ce qu'il circule. Et aussi parce qu'il y a des biais, il y a des lignes qui sont plus impactées que d'autres, etc. On ne veut pas vous travailler là-dessus. Et du coup, l'autre partie du dataset, qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle les variables autorégressives. Donc c'est vraiment, à une gare donnée, les temps d'attente qui sont observés pour les trains qui passent, qui sont successifs, et pour un train donné aussi, les retards qui sont successifs d'une gare à l'autre. Le graphique que vous voyez au-dessus, ça ressemble un peu à des chronogrammes qui sont utilisés en opérationnel. La flèche que vous voyez en bleu, donc tout ce qui est vertical, en fait, c'est les trains qui vont circuler les uns à la suite des autres, et en horizontal, la flèche rose, c'est les différentes gares. Donc en fait, si on s'imagine que tous les carrés roses, c'est les gares sur une ligne donnée, donc qui se suivent, on a pour chacune des gares les trains qui arrivent à telle heure, etc. Et donc nous, on va essayer de regarder deux choses. Pour une gare donnée, quels ont été les temps d'attente sur les 3-4 derniers trains qui se sont succédés à cette gare-là? Et pour un train donné, quel a été le temps d'attente à chacune des précédentes gares de son parcours? L'idée, c'est que s'il y a eu un aléa sur un train, bah, potentiellement, les retards précédents vont pouvoir jouer sur le retard à prédire. Et s'il y a eu un aléa au niveau d'une gare, bah typiquement, les précédents trains, eux aussi, ils ont eu des aléas. Donc ça peut aussi jouer sur le prochain train qui arrive pour savoir bah, du coup, quel est le temps d'attente que nous, on espère prédire. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc comme je vous ai dit, les trains, les gares ont été anonymisés. Vous ne pouvez pas retrouver où est-ce qu'elles se situent sur le réseau. Vous avez la date, les différents arrêts, donc quand même dans l'ordre... Donc par exemple, 12, ça veut dire que le train OUH-ZKK, bah c'est, il parcourt la 12e gare, et cette gare-là, bah du coup, c'est la gare YWW. Donc voilà, on a essayé d'anonymiser tout ça. Et donc, comme on disait, je vous donnais la définition juste avant, je vais peut-être revenir en arrière. On a défini du coup PX et QX, donc du coup, c'est nos variables autorégressives. Ce qui correspond au P, c'est ce qui correspond du coup aux informations sur la gare. Donc P1, Q0, c'est la différence entre le temps d'attente du train K à la gare précédente. Et si on change du coup les chiffres plutôt sur Q, donc P0, Q1, c'est la différence du temps d'attente du précédent K, du précédent train à la même gare. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc on vous a mis les informations pour deux trains en arrière, trois trains en arrière, quatre trains en arrière. Pourquoi on n'a pas fait sur un train en arrière? Parce qu'en fait, il y a des stratégies qui existent et que nous, on peut aussi utiliser d'un point de vue métier, c'est-à-dire qu'on peut juste dire le retard à la gare précédente, on le translate, c'est le retard qu'on définit à notre gare, nous. On n'a pas forcément envie de vous laisser utiliser cette stratégie qu'on connaît déjà, mais c'est de aussi vous pousser à trouver d'autres solutions techniques. Donc nous, on a fait un petit benchmark rapide, on a juste mis en place un petit modèle de forêt aléatoire pas forcément bien paramétré, avec une MAE donc qui sera du coup présente du coup sur la plateforme de Data Challenge. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, le jeu de données qu'on vous transmet, c'est un jeu de données qui comprend du coup des données de plan de transport et de retard et de temps d'attente d'avril à novembre 2023. Ça fait donc du coup 6 mois de données et ça correspond dans mes souvenirs à peu près 600 000 lignes. Voilà, donc c'est quand même un dataset conséquent, et on vous demande du coup de tester votre modèle, votre process sur des données de novembre à décembre, donc, du coup juste après. Voilà.
Et est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est à peu près clair? Le but du challenge, c'est de prédire les temps d'attente à partir des temps d'attente passés du même train et des trains précédents, globalement. Et ça nous permet d'essayer de prédire en temps réel les choses. Comme l'a dit Julie Gaëlle, en réalité, aujourd'hui, on utilise une méthode qui s'appelle la translation, mais qui n'est pas vraiment une méthode en tant que telle. C'est si jamais un train a du retard sur la gare passée, on va translater de l'horaire théorique d'autant que le retard du train. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais il y a des heures théoriques, il y a des heures réelles aux gares précédentes, on translate. Parfait, merci.
Merci beaucoup. On va passer au challenge numéro 3. Sébastien qui va nous présenter le challenge pour Enedis.
Bonjour à tous. Alors, moi je suis Sébastien Delbos, je travaille Enedis. Comme environ 400 personnes d'Enedis sur 40 000, donc je suis data scientist. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de remplir des valeurs manquantes de données de consommation. Alors, qui sommes-nous, Enedis ? On est le service public de la transition écologique. Et nos missions, c'est principalement vous raccorder, vous dépanner et moderniser le réseau. Et pour faire tout ça, on a besoin d'un certain nombre de données et de travailler sur les données. Alors, que font les data scientists chez nous ? On participe au marché de l'énergie, enfin, ou l'électricité en tout cas, en mesurant la consommation, la production à notre périmètre. On essaye de favoriser le développement de la maîtrise de la demande et des flexibilités. On contribue à la transition écologique en intégrant les énergies renouvelables, les véhicules électriques sur le réseau électrique. Et on encourage le développement de l'autoconsommation électrique. Pour exploiter et maintenir notre réseau, on fait des prévisions de courbes de charge. Alors, qu'on appelle courbes de charge dans notre jargon, hein, c'est les courbes de consommation ou de production. Et on aide également à dimensionner le réseau, c'est-à-dire à prévoir quels seront les besoins de matériel sur le réseau dans le futur. Et on fait également de la maintenance prédictive sur tous nos matériels qui sont sur le réseau. On optimise notre performance interne en mesurant et en prévoyant les pertes électriques sur le réseau, parce que l'électricité qui circule sur notre réseau électrique eh bien, chauffe notre réseau et crée des pertes qu'on doit acheter sur les marchés de l'énergie. Et on essaye également d'optimiser les plannings de travaux. Et enfin, on rend des services aux collectivités en évaluant la précarité énergétique et en évaluant l'impact des rénovations énergétique. Et depuis peu de temps, on optimise l'éclairage public avec Linky en éteignant les éclairages publics la nuit, à la demande des collectivités. Alors, le challenge qu'on vous propose, c'est sur le calcul des bilans d'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est un bilan d'énergie ? C'est une courbe de charge qui est une somme de courbes de charge individuelles. On a besoin parce que on doit fournir réglementairement ces bilans d'énergie à l'ensemble des responsables d'équilibre. Les responsables d'équilibre, ce sont tous les acteurs du marché de l'électricité, puisque ces responsables d'équilibre ont utilisé ces bilans d'énergie pour faire les meilleures prévisions possibles à leur périmètre. Alors, si on regarde, j'ai un petit pointeur ici. Si on regarde, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un équilibre entre l'injection et le soutirage, ou alors entre la consommation et la production. Et en particulier, il y a tout un tas de composantes de l'injection et du soutirage. Et en particulier, pour les mesurer, on a besoin de calculer les bilans d'énergie. Donc, 95% des clients reliés à un réseau public de distribution sont des clients d'Enedis. Il y a en France d'autres réseaux publics de distribution, mais ils sont beaucoup plus petits que nous. Alors voilà un exemple de bilan de consommation. On voit 7 jours de consommation. On commence par un dimanche, ensuite vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au samedi, qui consomme un petit peu moins que les jours de semaine. Alors, quel problème on peut avoir quand on va créer ces bilans de consommation, c'est qu'on va avoir des mesures incomplètes. Donc on a des problèmes potentiels à toutes les étapes. Hein. Donc l'énergie, elle est mesurée, enfin les courbes de charge sont mesurées dans le Linky, qui transmet par courant porteur en ligne ces données jusqu'au poste de transformation, qui transmet ensuite via le réseau téléphonique 3G jusqu'à nos data centers. Ensuite, un traitement algorithmique va mettre ces données dans des bases de données partagées. Et donc, à toutes ces étapes, on peut avoir des, des problèmes de transmission ou de perte de données. Alors, en particulier, voilà, on peut avoir cette courbe en bleu, c'est ce qui se retrouve dans notre base de données partagée, et en orange, c'est tout ce qui a eu lieu, mais qu'on a loupé. Enfin, qu'on loupe à la fin, en tout cas. Donc, le challenge, c'est de combler les valeurs manquantes de certaines données en partant uniquement des autres courbes de charge. Donc, il n'y a pas de variable explicative, il y a uniquement une série de courbes de charge. Avec ça, on vous demande de remplir des trous sur un échantillon de courbes de charge qu'on a trouvé. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on a ? Donc vous aurez 69 000 courbes de charge d'une longueur d'un mois ou pas 30 minutes. Alors ces courbes de charge, c'est des données synthétiques qui sont fabriquées par un GAN, parce que pour respecter le règlement général de protection des données, on ne peut pas vous fournir des données individuelles réelles. Et parmi ces 69 000 courbes, il y en a 1 000 qui comportent des trous. Voilà, donc vous avez uniquement ces 69 000 courbes en watts. La métrique que vous devrez améliorer, c'est la MAE de l'ensemble des données par rapport aux données d'origine. Et le benchmark qu'on vous a fourni, c'est un benchmark très naïf, donc c'est une interpolation linéaire. Donc forcément, on serait très déçu si vous n'arriviez pas à faire mieux. Et c'est tout. Merci à vous.
Merci beaucoup. On va pouvoir passer à l'avant-dernier challenge.
Bonjour à tous. Je suis Émeric Basset, data scientist, accompagné de Émeric Lanor, neurologue et doctorant à l'Institut du cerveau. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre challenge intitulé « Prédire et corriger les biais dans l'évaluation du score moteur chez les patients parkinsoniens ». Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'Institut du cerveau est un centre de recherche scientifique et médicale dédié à l'étude du cerveau et à la découverte de nouveaux traitements. On est basé à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui est le plus grand centre de neurologie en Europe et qui héberge 700 experts dans 27 équipes différentes. Notre équipe, physiopathologie moléculaire de la maladie de Parkinson, a une approche transdisciplinaire de l'étude de la maladie, parce qu'on associe à la fois la biologie des neurones, la génétique et l'évaluation clinique pour mieux comprendre la maladie de Parkinson. Et justement, cette maladie, qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, la maladie de Parkinson résulte d'une dégénérescence progressive des neurones de la substance noire qui sont responsables de la production de dopamine, qui est un neurotransmetteur essentiel au bon contrôle de nos mouvements. La diminution de cette dopamine entraîne des symptômes moteurs classique, notamment le tremblement qui est connu dans la maladie de Parkinson. On estime qu'il y a environ 10 millions de personnes atteintes cette maladie dans le monde, et même si les traitements actuels consistent à remplacer la dopamine manquante chez les patients. Le traitement est efficace, mais il est uniquement symptomatique, c'est-à-dire que lorsque le patient prend le traitement, les symptômes disparaissent. On va parler d'un état on. Au fur et à mesure que la dopamine qu'on a donnée à notre patient disparaît de son organisme, on va petit à petit avoir les symptômes qui reviennent et on sera dans un état off. Dans le cadre de la recherche clinique, notre but est de comprendre les différents profils d'évolution hétérogènes de nos patients. Donc les enjeux sont d'évaluer objectivement la dégradation de notre patient en quantifiant les symptômes. Pour ce faire, on utilise des échelles de notation qui sont standardisées. Donc ici, par exemple, on utilise la MDS-UPDRS. Concrètement, quand on étudie nos patients, un médecin va faire passer une série de tests à celui-ci. Ici, on a le lever du fauteuil. Si le patient est capable de se lever normalement, il aura un score de 0. Et s'il en est incapable, le cas le plus sévère, il aura un score de 4. On répète ce processus pour différents symptômes, la rigidité, la kinésie, le tremblement, pour différentes parties du corps. Et on obtient un score entre 0 et 132. Le problème, évidemment, quand on répète autant de fois des mesures, c'est qu'on va avoir des imperfections qui apparaissent sur la mesure de notre score. Il y a deux grandes familles d'erreurs qu'on va retrouver. Un qui va influencer la variance. Donc, par exemple, on a la subjectivité de l'évaluateur. D'un médecin à un autre, on peut estimer qu'un patient a un score de 3 ou un score de 4. On va avoir aussi les données manquantes. Parfois, les visites sont incomplètes ou que sais-je. Tout s'accumuler fait que on ne mesure pas exactement le vrai score du patient à un instant T, ou plutôt avoir des écarts par rapport à un score théorique parfait. La deuxième grande famille qu'on retrouve, en fait, c'est les biais systématiques. Comme je vous disais tout à l'heure, nos patients, on traite leurs symptômes. Donc quand ils viennent de prendre leurs médicaments, les symptômes, en théorie, disparaissent. Donc le problème, même si on était capable de mesurer parfaitement leur score à un instant donné, et bien potentiellement, l'état qu'on est en train de mesurer, ce n'est pas l'état qui correspond à la dégradation réelle du patient. Donc, on va avoir deux mesures de score, comme je vous le disais, l'état on et l'état off, mais on va avoir des petites variantes entre eux en fonction du délai depuis la prise du médicament. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comment exploiter toutes les données à notre disposition pour obtenir le score le plus représentatif possible de la dégradation de nos patients. Alors, pour illustrer cela, on va commencer avec un petit exemple marrant. Si on a un patient ici qu'on a vu trois fois en trois ans et on a mesuré son score ON, on a l'impression que notre patient il est assez stable, voire même qu'il s'améliore. Or, comme on l'a dit, Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative, donc en pratique, notre patient ne fait que se dégrader au fur et à mesure. Ici, on voit une des premières limites, qui est que le score ON tout seul ne décrit pas vraiment parfaitement la dégradation de notre patient. Maintenant, si on rajoute des points, donc toujours en vert le score ON et en rouge le score OFF, on voit que même si on a plusieurs points, cette fois-ci, on voit qu'il y a une certaine dégradation, donc le score augmente avec le temps, eh ben, c'est compliqué de choisir la trajectoire qui représente le mieux la dégradation du patient. Est-ce qu'on est sur une dégradation qui est plutôt rapide, agressive, donc les valeurs qui montent très haut, ou une dégradation lente, le point à 54 ans. Pour corriger ça, on va rajouter une nouvelle information qui est le délai avec la prise du traitement. Ici, on voit par exemple que le point à 54 ans, en fait, il a été mesuré 12 heures après la dernière prise du médicament, alors qu'auparavant, on était plus entre 15 et 14 heures. Donc, ça nous laisserait penser que ce point, en fait, il est plus proche d'un état on, donc le traitement est actif, que d'un état off. Avec cette information, on peut corriger le biais qui a été introduit par le traitement. On obtient cette courbe, qu'on va appeler le score off réel, qui est la cible de notre challenge. Le but est de retrouver pour chacun des patients cette courbe, donc à chacune des visites, mesurer le point qui correspond à cette courbe bleue en utilisant toutes les autres informations. Donc plus concrètement, qu'est-ce qu'on a comme données ? Évidemment, c'est des données médicales, donc vous n'aurez pas accès aux données de nos patients. On a créé un jeu de données synthétique qui a les mêmes propriétés, les mêmes relations que les vraies données, mais aucun des patients présents dans le dataset n'existe. Quelques chiffres clés, on a 10 000 patients pour environ 80 000 visites réparties en trois cohortes avec environ 30% de valeur manquante. Donc là, il faut bien se rendre compte que d'un point de vue métier, 10 000 patients, 80 000 visites, c'est vraiment une énorme base de données. On vous a un peu simplifié la tâche en générant beaucoup de profils de progression et en pratique, on a souvent moins de patients et moins de visites. Pour ce qui est des variables, vous aurez accès à des variables démographiques, des marqueurs génétiques pertinents, l'évaluation clinique évidemment, donc les scores on ou off, et la posologie du traitement. Enfin, notre cible, c'est le score moteur réel ou le score off non biaisé. On vous a fourni un modèle de référence qui est vraiment très simple. En fait, c'est simplement une fonction affine moyennée qui ne dépend, donc le score réel ne dépendra que de la durée d'évolution de la maladie et le score initial. Grosso modo, ça revient à dire que nos patients diagnostiqués commencent avec un score d'environ 15 et chaque année, ils vont prendre 3 points sur le score moteur. C'est vraiment une approximation assez grossière et vous n'aurez aucun mal à battre ce modèle, mais en pratique, on a parfois assez peu de données sur nos patients et assez peu de visites ou de mesures, et c'est une approximation qu'on est amené à faire dans nos recherches. Donc, pour récapituler, notre but, c'est de modéliser la progression des symptômes moteurs de nos patients, mais dans l'exemple que je vous ai donné, on avait beaucoup de points, beaucoup d'informations, et dans le jeu de données, vous allez voir qu'il y a des patients où vous aurez beaucoup moins de points et beaucoup moins d'informations. Donc il faut que la méthode que vous développez soit robuste à toutes ces valeurs manquantes. De plus, vous l'avez vu, il faudra être capable de vraiment prendre en compte le délai du traitement pour affiner votre prédiction et pas simplement essayer de passer entre les points ou que sais-je. Et pour conclure, Peut-être pour vous donner un peu de perspective et comprendre pourquoi on aimerait faire ça. Ici, il faut comprendre qu'une meilleure représentation de l'état moteur réel de nos patients, ça a plusieurs avantages. Le premier, évidemment, c'est mieux comprendre les facteurs impliqués dans la progression de la maladie. Mais en termes de perspective, on pourrait imaginer corréler donc ce score que vous allez créer, qui, je vous le rappelle, est un proxy de la perte neuronale, donc les neurones qui produisent la dopamine, etc. Et le corréler donc, a des caractéristiques d'imagerie, puisque vu qu'on perd des neurones dans le cerveau, avec l'imagerie, on voit ces neurones qui disparaissent. Donc si on est capable de les corréler, on serait capable, en théorie, de retrouver des propriétés de l'imagerie uniquement avec le score moteur. Et si on est capable de faire ça, eh ben, on n'a plus besoin de faire passer l'examen d'imagerie à nos patients, puisqu'on a directement les informations qui nous intéressent. Et suffit-il, puisque l'imagerie, c'est coûteux et complexe à mettre en place parfois. Voilà, merci de votre attention et bonne chance. Si vous avez des questions... Donc je répète la question, est-ce que avec les données synthétiques qu'on a générées, on est sûr de ne pas avoir perdu de données? Est-ce qu'on est sûr que les relations existent toujours et que, voilà. Alors pour être honnête, évidemment, il y a de la perte d'données, il y a de la perte d'informations. Le problème est simplifié parce que, honnêtement, il est assez complexe quand il y a énormément de valeurs manquantes, ce qui est notre cas. En pratique, on a vraiment plein de... Enfin, typiquement le traitement, le délai depuis le traitement, etc., parfois on n'a pas du tout accès. Même quand je parlais des valeurs manquantes, c'est pas rare que dans des... Parce que là, on vous présente le score directement entre 0 et 132. En fait, on a accès à chacun des sous-items et des fois, il y a un item qui n'est pas évalué. Et donc, potentiellement, s'il y a 2-3 items qui ne sont pas évalués, ça fait un écart de 10 points. Et 10 points, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter 3 ans d'évolution pour un patient. Donc, c'est énorme. Donc là, la manière dont ça a été fait, c'est qu'on a essayé de valider que les relations qu'on a mises en place, qui sont des vraies relations, des corrélations ou autres construites dans nos données, reflétaient ce qu'on avait envie, d'un point de vue métier et expert, que vous trouviez. Donc pour répondre à ta question, le modèle tel quel que vous avez utilisé, on ne pourra pas le calquer directement sur nos données, mais le but, c'est de voir quelles sont vos idées, quelles sont les différentes méthodes, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de familles algorithmiques qui peuvent répondre à ce problème. Différentes et voir lesquelles marchent le mieux, auxquelles vous penserez, et peut-être être surpris à des choses qu'on n'a pas encore imaginées. Voilà. Et aussi, peut-être aussi pour accentuer ça, il faut bien comprendre que le score que vous allez prédire, en pratique, n'existe pas. C'est vraiment un score hypothétique que nous, on aimerait développer, mais c'est purement de la recherche interne chez nous et il n'y a pas de. On l'a développé pour le challenge.
Oui, alors la grande différence avec la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il n'y a pas de traitement symptomatique efficace dans la maladie. Et donc les évaluations cliniques, notamment les tests cognitifs qui sont effectués, reflètent plutôt bien la dégradation cognitive. Tandis qu'ici, dans la maladie de Parkinson, on donne un traitement aux patients, comme l'expliquait Aymeric, et ce qui fait qu'on va avoir un effet sur les symptômes moteurs de nos patients. Et donc ça rend plus complexe finalement l'évaluation motrice, d'où l'intérêt de développer un score moteur off non biaisé qui reflèterait au mieux la progression motrice. Donc c'est un peu différent des autres maladies neurodégénératives pour lesquelles il n'y a pas de traitement symptomatique.
Merci.
Merci beaucoup. Et du coup, on va accueillir la présentation du dernier challenge pour HRflow.
Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là pour la deuxième année pour ce challenge. Je m'appelle Mouhidine, je suis le fondateur d'HRflow.ai et je suis là avec mon associé Thomas et directeur technique. Donc HRflow, c'est une société que j'avais créée pendant ma dernière année au MVA, donc ça remonte à 8 ans déjà. Donc pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait chez HRflow, en fait on fait des algorithmes pour le recrutement. On n'est pas très loin d'une quarantaine de personnes à peu près aujourd'hui, et on traite à peu près 100 millions de profils dans le monde entier, dont 23 millions de profils à peu près en France. Donc on n'est pas très loin de la quasi-totalité de la population active, et en fait on traite des profils que ce soit côté recruteur, mais on fait de la recommandation d'offres d'emploi pour les candidats, voilà, pour des sociétés, tout au long de la chaîne de vie un peu de la candidature, du site d'emploi jusqu'à chez l'employeur, en fait, final. Comment on a choisi, en fait, quel algorithme implémenter, ou comment on a essayé de modéliser, en fait, le travail du recruteur? En fait, On l'a divisé en deux types de tâches, donc des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, comme tout ce qui est recherche de candidats manuels, tout ce qui est en fait saisie manuelle. Donc c'est des tâches qui sont extrêmement chronophages. Et donc face à ces tâches, on a créé des algorithmes, par exemple, d'extraction au fait de données, comme tout ce qui est parsing de CV si vous allez sur un site d'emploi. Quand vous glissez déposer un CV et que l'information est retranscrite, quand ça fonctionne, c'est nous. Quand ça fonctionne pas, c'est les concurrents. Et on a aussi, au fait, mis en place des connecteurs pour faire des automatisations de données. Et sur les tâches à haute valeur ajoutée, donc qui était la promesse de départ, en fait, de la société, on distingue deux types de tâches. En fait, on a des tâches d'entretien. Et donc aujourd'hui, les tâches d'interview, ça devient de plus en plus évident aujourd'hui que ce sont des tâches d'IA générative. Et puis, en fait, on a des tâches d'évaluation sur lesquelles, en fait, on a travaillé. Donc, tout ce qui est ranking de candidats ou qui est ranking d'offres d'emploi, qui finalement représente la famille de tâches la plus compliquée. Donc, ça, c'est un peu la liste des algorithmes qu'on a créés. Donc, ça part de la simple extraction de données jusqu'à de l'évaluation de langage ou de l'évaluation de compétences. Et donc, en fait, tous ces modules d'IA, c'est un peu comme des pièces de puzzle qui se complètent les uns aux autres. Donc, par rapport au challenge qu'on présente cette année, c'est un challenge, au fait, de recommandation d'offres d'emploi pour les candidats, pour les chercheurs d'emploi. Donc, dans la problématique de ranking, il y a un peu les deux côtés. Il y a le côté recruteur, qui est un côté qui est extrêmement difficile. Parce qu'à partir au fait d'un profil, donc d'un CV, qui est une donnée qui est pas complète, incomplète, l'objectif en fait c'est de prédire en fait quel est le meilleur match. Côté candidat, le problème il est plus simple que le côté recruteur. Il s'agit là en fait de prédire si le candidat va cliquer ou postuler sur une offre d'emploi. Donc Le challenge, en fait, il s'agit du deuxième problème, en fait, et je vais partager avec vous notre approche pour résoudre le premier problème à partir duquel vous pouvez vous inspirer pour ce challenge. Donc, je commence déjà par qu'est-ce qui marche pas. En fait, ce qui marche pas, c'est penser qu'on peut extraire des mots-clés à partir de CV et d'offres d'emploi et essayer de faire un indice de Jaccard, donc une intersection des mots-clés sur l'Ignon. Si le candidat et le recruteur n'utilisent pas les mêmes mots-clés, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas aussi, c'est des approches, par exemple, qui étaient utilisées comme par des sociétés comme Indeed, qui reviennent à essayer de déterminer des attributs latents à partir du profil et de l'offre d'emploi et essayer de faire un peu ce même indice de Jaccard, ou tout simplement partir sur par exemple une représentation, en fait une vectorisation des profils et des offres, et essayer de faire juste une similarité cosinus. Il y a un problème au fait de distance, et il y a aussi le problème du fait que voilà, les candidats qui vont utiliser le plus de mots-clés seront ceux qui vont ressortir. Ou de l'autre côté, vous allez avoir du mal à recommander des offres d'emploi qui sont extrêmement courtes. Donc, côté recruteur, en fait, qu'est-ce qu'on a fait en fait chez HRflow? On a essayé juste de restituer le problème, de poser le problème et de se dire en fait quel est l'objectif. Donc, l'objectif du recruteur, finalement, c'est d'avoir un candidat qui arrive jusqu'à la fin des entretiens. Et donc, ce problème peut être modélisé par un problème au fait de prédiction de la trajectoire. Donc un recruteur en fait il utilise un outil qui ressemble à Trello où vous pouvez imaginer en fait un outil. Vous pouvez imaginer par exemple le jeu de Monopoly où le candidat passe de case en case et donc s'il s'arrête à un moment en fait c'est que c'est quelque part en fait un échec et l'objectif en fait c'est de prédire, de maximiser la probabilité que le candidat en fait arrive à la fin et minimiser la probabilité que le candidat saute du train ou n'arrive pas en fait jusqu'au bout en fait du processus. Et donc la manière avec laquelle en fait on a découpé le problème chez HRflow, donc on a construit en fait un modèle qui passe d'abord par une phase en fait de pré-entraînement pour apprendre un peu toute la sémantique quelque part liée à la partie RH. On travaille avec plusieurs sociétés qui ont différentes typologies et donc ces sociétés nous envoient en fait des feedbacks. Ça nous permet d'avoir en fait une phase d'entraînement qui est fédérée à ces sociétés-là. Et puis en fait, ce qu'on constate, c'est que voilà, quand on fait cette partie fédérée, ça nous donne des modèles de fondation, donc des modèles qui sont spécialisés quelque part par industrie. Et pour chaque société spécifique, on va quand même en fait réentraîner pour la société en fait en particulier pour atteindre des bonnes performances. Et en fonction d'utilisateurs, vous pouvez avoir des utilisateurs qui sont online, c'est-à-dire que ce sont des utilisateurs qui ont des profils qui sont connectés. Et donc là, en fait, vous pouvez réentraîner par rapport à la donnée de session, comme vous pouvez avoir des utilisateurs qui ne sont pas connectés et qui ne vous donnent pas de feedback, mais des données de navigation à prendre en considération. Et par rapport à l'évaluation, en fait, côté recruteur, en tout cas ce qu'on a essayé de faire pendant ces 8 dernières années, là je vous donne un exemple. Là vous avez par exemple, c'est des données d'un cabinet de recrutement. En vert, vous avez les profils qui ont été recrutés, en fait, au bout d'à peu près 7 entretiens. Ici, vous avez les profils qui ont été postulés, mais qui n'ont pas été pris. Et là, vous avez des profils, en fait, qui ont été sourcés, cherchés par les recruteurs, qui n'ont pas été recrutés. Et donc, en fait, tout l'enjeu pour nous, côté recrutement, ça a été de séparer, en fait, ces trois courbes pendant à peu près 8 ans. Donc, c'est-à-dire qu'avoir en fait les recrutés tout à droite, avoir ceux qui ont postulé rejetés en fait là, mais avec une courbe en escalier à peu près, et puis avoir les candidats qui sont un peu hors sujet tout à gauche. Et donc un point supplémentaire auquel il faut faire attention, c'est aussi la partie fairness. Donc là, tout à l'heure, je parlais d'objectifs de performance, une évaluation de performance, mais quelque chose qui s'impose et qui est très important dans le recrutement, c'est tout ce qui est biais lié au recrutement. Et donc, quand on fait un entraînement, on rajoute des contraintes supplémentaires, par exemple par rapport à l'équité, par rapport à l'âge, par rapport au genre, par rapport à l'ethnicité, par rapport au code postal. Et c'est des biais qui existent réellement. Et l'objectif, en fait, c'est de montrer que l'IA, elle est plus précise qu'un recruteur humain et qu'elle est moins biaisée qu'un recruteur humain. Donc ça, c'est les deux objectifs pour passer en production. Donc ça c'était l'approche côté recruteur. Et Thomas, il va vous parler de l'approche côté candidat, en fait, qui représente en fait ce challenge. Mais le problème, il est assez parallèle.
Du coup, je m'appelle Thomas. Je vais vous présenter l'approche candidat, donc qui est liée au challenge. Donc par rapport au produit qu'on propose qui est associé à la partie candidat, donc on a un Talent Copilot. Le Talent Copilot, c'est une interface pour le candidat. Donc globalement, ça ressemble à un job board sur lequel un candidat peut aller puis dropper son CV pour avoir des offres qui lui sont recommandées par ordre de pertinence. Voilà, il y a plusieurs informations qu'on peut récupérer à travers la navigation du candidat, comme des keywords qui sont liés à la recherche d'offres d'emploi et des informations comme les clics et les candidatures sur les offres d'emploi. Alors, par rapport au challenge qu'on propose, donc l'idée, l'objectif de ce challenge, c'est, étant donné l'historique d'un candidat, l'idée c'est de prédire la prochaine offre sur laquelle le candidat va soit visualiser l'offre, soit postuler. Étant donné l'historique, donc l'historique est constitué d'une séquence, de séquences d'offres d'emploi sous forme de texte et d'actions qui sont soit des views, soit des plays, donc soit une visualisation, soit une candidature. Côté données, donc la donnée qu'on vous propose est découpée en trois parties. La première partie correspond à un listing d'offres d'emploi sous forme textuelle. La deuxième partie correspond aux sessions des candidats, donc une succession d'offres d'emploi avec les interactions qui sont associées. Globalement, ça correspond aux inputs des modèles que vous aurez. Et troisième partie de la donnée, donc les offres d'emploi cibles sur lesquelles les candidats ont soit candidaté, soit visualisé l'offre. Par rapport aux métriques, donc on a une métrique qui est custom dans notre cas. Donc elle est en deux parties. Il y a une première partie qui permet de mesurer la capacité de vos approches à ordonner les offres d'emploi, donc le MRR, Mean Reciprocal Rank. Et une deuxième partie, donc l'accuracy, qui est plus classique et qui permet de voir si vous arrivez à classifier l'offre cible ou non. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Ok. Dans ce cas, je vous souhaite un bon challenge.
Merci à tous pour votre attention durant ces 5 présentations. N'hésitez pas à suivre la page LinkedIn du Challenge Data si ce n'est pas déjà fait. Il y a de fortes chances que je vous spamme sur LinkedIn pour la suivre. De toute façon, c'est un peu notre seul canal d'actualité du Challenge où on va faire un petit peu de communication sur les actualités, éventuellement sur les leaders temporaires des classements. Donc c'est un petit peu là que ça se passe. Voilà, la semaine prochaine, on aura la cérémonie de récompense de la saison 2024 des Challenges, du coup. Donc, si vous voulez faire partie de la cérémonie de récompense pour les Challenges 2025, à vous de jouer. Merci beaucoup pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.